AVS avec Philippe Robichon.
AVS, ça veut dire à votre santé naturelle. Ce matin, bonjour et bienvenue. On a un petit nouveau avec nous aujourd'hui. C'est le docteur Philippe Goeb. Bonjour et bienvenue.
Merci.
Bienvenue, doc. Donc, vous êtes médecin généraliste, oui. Spécialiste des thérapeutiques alternatives depuis 35 ans. Qu'est-ce qui
oui,
fait?
Facilement, oui.
Oui, tout augmente. Mais c'est, alors, attendez, il y a encore, j'ai rajouté 5 ans parce que dans votre livre, vous dites depuis 30 ans.
Oui, parce que je veux pas.
Donc, vous voyez, j'ai rajouté 5 ans, mais qu'est-ce qui fait que vous avez mal tourné?
Eh bien, tout simplement, ce sont mes patients qui m'ont montré que la chimie, c'était quelque chose d'efficace, de bien, mais quelque chose de limité, de symptomatique. Par exemple, vous pouvez voir une dame qui a une périarthrite scapulo-humérale, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à lever le bras comme il faut. Bon. Donc, elle est bloquée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez un anti-inflammatoire non stéroïdien, genre Voltaren, par exemple. Bon, elle revient, 8-10 jours après, elle vous dit, bah, écoutez, c'est bien ce que vous m'avez donné, mais, oui, c'est mieux, je bouge mieux, mais j'ai toujours mal à l'épaule. Bon, bah, écoutez, on va vous faire une radio, ok, on fait des clichés, et là, on trouve une calcification. Bon. Bah, vous voyez, si vous avez mal à l'épaule, c'est à cause de votre calcification. Bon, bah, d'accord, bah, alors qu'est-ce que vous me faites? Bah, je vais vous proposer une infiltration. Bon, vous faites une infiltration, donc de cortisone, et bah, la personne va nettement mieux. Mais vous ne la revoyez plus et vous savez que bon, c'est un acte limité parce que ça dure peu de temps finalement et vous retrouvez votre douleur, il faudrait en refaire d'autres. Donc, voilà, le temps s'écoule, on ne pense plus à ça. Et puis, peut-être un mois après, deux mois après, je suis amené à aller en visite pour voir l'enfant de cette dame qui a, par exemple, une otite, une angine. Et, bon, j'examine l'enfant, je suis mon ordonnance, et je lui dis, écoutez, madame, je vois que vous bougez très bien votre épaule. Manifestement, c'est pas l'infiltration que je vous ai faite qui a pu vous guérir aussi bien, parce que normalement, il faut en faire d'autres. Elle a dit, bah, écoutez, vous me gênez beaucoup. J'ai dit, écoutez, on se connaît bien. C'est vrai, généraliste en campagne, on connaît tout le monde, les parents, les enfants.
Ça,
les...
c'est vous, ça. C'est vous dans votre première vue.
Voilà.
Médecin de campagne.
Voilà. Donc, elle me dit, bah, écoutez, je suis allé voir un homéopathe. Il m'a donné ceci, ceci, cela. Bon, alors moi, qui étais un peu... alors un grand sourire.
Attends, parce que ce que vous venez de faire, ça passe pas à la radio, vous qui étiez un petit peu étroit d'esprit.
Oui, oui, parce que j'étais dans la chimie.
Dans la boîte, comme on dit.
Voilà, parce que avant de faire mes études de médecine, j'ai fait mes études d'ingénieur. Et donc l'ICAM à Lille, et donc c'est une école d'ingénieur arts et métiers privée. Et donc 5 ans d'études. Et moi, ma passion, c'était la chimie. Bon. Et donc, pour la médecine, j'ai fait ma médecine après, tout en bossant comme ingénieur pendant 3 ans et 3 mois. Mais après, il fallait démissionner parce qu'il fallait aller à l'hôpital, donc je ne pouvais plus cumuler. Voilà. Bon, bref. Donc, sortant de médecine, où là, j'aimais beaucoup la napate, l'histologie.
Alors, la napate, c'est...
Alors, l'anatomie pathologique. Vous savez, quand vous faites opérer, on vous enlève... un petit bout de quelque chose, et on l'analyse après au microscope. Ces analyses-là, ça fait partie du monde de l'anatomie pathologique. Et avec la napate, vous pouvez vous retrouver aussi, à la morgue, c'est-à-dire en train de faire des autopsies. Bon, c'est bien, mais moi qui aime bien parler, là, je parlais tout seul.
Au niveau de l'autopsie, c'était limité.
Oui, voilà.
Sauf si vous convoquiez des esprits.
Voilà. Mais ce que je veux dire... c'est que c'est une médecine absolument passionnante, cette anapath, parce que vous allez vraiment au cœur de la pathologie, mais au point de vue émotionnel, au point de vue exercice, c'est très très dur, parce que vous voyez des choses vraiment qui sont vraiment chaudes. Donc finalement, bah, j'ai préféré être généraliste, avoir le contact avec les gens, et moi j'étais donc sorti de la fac, sorti de mes études d'ingénieur, la chimie, le médoc. Et il ne fallait rien de me dire d'autre. Vous m'auriez dit à l'époque, phytothérapie, ostéopathie, acupuncture, etc. Je vous aurais dit, bon, la porte est là.
Là, on est au début des années 70, hein, pour, oui, voilà, à peu près, pour situer l'époque.
Voilà. Et donc, ensuite, bah, mes patients m'ont montré qu'il y avait autre chose. Donc, si vous voulez, vous le voyez une fois, bon, vous avez les boules. Vous voyez deux fois, trois fois, quatre fois. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie, on se confronte toujours. Mmh. Et là, je me suis dit, ils ne sont pas tous idiots. Et j'ai voulu ouvrir la porte pour savoir ce qu'il y avait derrière. Donc, c'est là que j'ai repris mes études, donc de pas d'ostéo, mais de phyto, aroma, acupuncture, homéopathie. Mmh. Et là, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires avec des gens qui étaient quand même les pieds sur terre, plein de bon sens et tout à fait logique.
Donc, vous avez refait des études de médecine naturelle, hein, d'une
Exactement.
Certaine façon. Vous partez en Inde pour travailler dans un laboratoire qui fait des huiles essentielles.
Oui, et là, j'étais responsable des analyses qualité.
Ça, c'était le chimiste, un peu, on va dire.
Bah, oui, voilà.
C'était vous.
Là. Et heureusement que j'avais fait mes études d'ingénieur avant, parce que du jour au lendemain, j'étais amené à faire ces chromatographies. Bon, bah voilà.
Donc, alors, la chromatographie pour les huiles essentielles, c'est quoi?
Eh bien, c'est l'analyse des composants, c'est-à-dire que avec une chromatographie, vous avez la concentration exacte des composants de l'huile essentielle. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous savez exactement ce qu'elle peut vous proposer, ce qu'elle a dans le ventre. Alors, c'est d'autant plus intéressant que aujourd'hui, depuis à peu près une vingtaine d'années, bon, mettons 25 ans, on dispose d'expériences de laboratoire sur des souris qui montre la pharmacologie des composants aromatiques. Donc c'est intéressant de savoir si on a affaire à tel ou tel composant avec telle et telle propriété, parce que là on objective vraiment les propriétés des huiles essentielles. Et quand on entend à l'hôpital vous dire « Oh bah vous savez, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, et si ça marchait, on le saurait », bah, moi, je leur réponds, écoutez, moi, je vais vous
ça,
dire...
C'est quand ils parlent d'huile essentielle, oui. À l'hôpital, ils disent, on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas comment ça marche.
Voilà, et bon, si vous y croyez, très bien. Alors moi, je réponds, bah écoutez, si moi, je vous dis ça à propos des antibios, bon, moi, j'y crois pas, admettons, hein, bon, bah, vous allez me répondre, t'as qu'à apprendre à lire, et puis tu regardes les expériences de pharmaco qui sont faites. Bah, moi, je réponds, bah écoutez, faites la même chose. Essayez de découvrir, soyez passionné par votre métier.
Est-ce que vous avez visité la distillerie d'État de Mirose, où on distille l'huile essentielle de Santal?
De Mysore.
Ouais.
Oui, j'y suis allé.
Quoi de Mysore? Mysore, c'est l'autre, non?
Non, c'est
en Inde.
Oui, voilà.
C'est ça.
Et donc,
ah, parce que dans votre livre, j'ai vu Mirose, c'est pour ça, Mysore, pardon.
C'est Mysore.
Mysore.
Et là, c'était une expérience qui était intéressante parce que vous savez que le santal, c'est quelque chose de très réglementé parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en prendre comme ça, sauvagement, pour le distiller et vendre l'huile essentielle par eux-mêmes. Donc là, l'État donc, a fait une réglementation et une surveillance intéressante. Et le responsable de cette distillerie était un homme pas loin de la retraite, mais avec un tempérament un peu fort. Et bon, il a accepté de me recevoir et on a pu, malgré tout, visiter sa distillerie. Et ça, c'était assez extraordinaire parce que c'est une distillation qui se fait sur entre 80 et 100 heures. Et vous avez tout le personnel qui est là, qui prend comme ça les petites gouttelettes d'huile essentielle qui sont à la surface de l'eau qui sort de votre alambic. Et ça, bon, il y avait une ambiance, il y avait un parfum, il y avait tout concourait à vous faire aller dans un autre univers, si
puisque les huiles essentielles sont distillées grâce à des alambics.
Oui, tout à fait.
C'est quoi la différence entre une huile essentielle et une essence, d'ailleurs?
Ah, alors, une essence de citrus, par exemple, une essence de citron jaune, une essence de mandarine, une essence d'orange douce, eh bien, l'essence est obtenue en pressant le zeste de l'agrume. Vous voyez ? Parce que si on distille le zeste de l'agrume, vous n'avez rien. Ça, je l'ai fait à La Réunion, j'avais une alambic de 30 kilos. foyer de contenu. Donc j'avais mis 30 kilos de zeste dans mon alambic. Bah, si je distillais encore aujourd'hui, vous voyez, j'aurais toujours rien. Donc là, on avait quelque chose qui ressemblait un peu à un liquide parfumé, mais aucune huile essentielle. Donc on est bien obligé de presser le zeste pour avoir l'essence. Tandis qu'une plante aromatique, vous prenez par exemple du romarin, vous prenez de la lavande, eh bien, vous mettez dans votre alambic et là, vous obtenez une huile essentielle. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces plantes aromatiques ont suffisamment d'essence en leur sein pour pouvoir être extraites
voilà.
Par l'alambic.
Alors, vous avez effectué avec des services hospitaliers des essais cliniques en aromathérapie.
Ça, c'était en Inde.
Mais il faut expliquer ça.
À Madras. Que,
voilà, vous l'avez fait là-bas. Vous donnez aujourd'hui des conférences dans le monde entier et vous êtes un spécialiste des huiles essentielles. Et vous publiez alors un livre qui est vraiment une bible hein, sur les huiles essentielles. Vous pouvez le montrer. Voilà, montrez-le à la caméra. Voilà, puisque l'émission est filmée. Donnez-nous les titres de votre livre.
Alors, il s'agit des huiles essentielles en toute confiance.
Voilà. Et l'éditeur ?
C'est le courrier du livre, une branche de Très Daniel.
Alors, sur les huiles essentielles, déjà vous insistez sur quelque chose qui est très important, c'est sur les précautions d'utilisation. Et ça, c'est vrai qu'avec la mode des huiles essentielles aujourd'hui, on n'insiste peut-être pas assez sur les précautions d'utilisation.
Mais vous avez raison, mais sur les huiles essentielles, comme sur d'autres produits naturels, vous voyez, à partir du moment où vous avez un produit qui fonctionne, il faut en déterminer le contour de sécurité pour agir en professionnel. Alors, pour les huiles essentielles, j'ai pu me confronter à une réalité parce qu'il y a 30 ans, disons, vous n'aviez pas de traité sur les huiles essentielles, vous n'aviez pas d'enseignement sur les huiles essentielles. Donc, il fallait un peu se débrouiller par soi-même. Et alors, ce qui est intéressant dans la pratique, c'est que on prescrit des huiles essentielles à ses patients et après, on a le retour. Vous voyez ? Donc là, quand on est confronté à la réalité par l'intermédiaire des patients, on voit tout de suite le contour de sécurité des huiles essentielles. Et ce, d'autant plus que j'ai été conseil d'un distributeur d'huiles essentielles. Et lorsque vous êtes médecin, eh bien, on vous relaie tous les coups de téléphone de la part des clients, de la part des pharmaciens, de la part des préparateurs qui ont un problème, justement, de tolérance. Donc, vous voyez, ça, c'était la réalité aussi pendant une dizaine d'années. Et c'était fort intéressant parce qu'il y a une grande différence entre la réalité et les réglementations. Je ne veux pas insister là-dessus, mais une administration qui fait une réglementation sur les huiles, bah, une administration, elle n'a pas un regard pratique, voyez, avec des clients, avec des patients, sur le retour de ces huiles essentielles.
On va reparler, puisqu'on a un peu de temps. Je voulais qu'on fasse une présentation, puisque c'est la première fois que vous venez. Je rappelle que vous publiez « Huiles essentielles en toute confiance, connaître les huiles et les utiliser au quotidien », au courrier du livre.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on est avec le docteur Philippe Goeb ce matin, qui est médecin généraliste et qui est spécialiste des thérapeutiques alternatives et notamment des huiles essentielles. Et vous publiez un livre très important pour ceux qui veulent s'initier aux huiles essentielles qui s'appelle Huiles essentielles en toute confiance, connaître les huiles et les utiliser au quotidien. Et l'éditeur, c'est au courrier du livre. Donc, en fait, il y a toutes les familles, en gros, hein, d'huiles essentielles. Et quelqu'un qui voudrait s'initier aux huiles essentielles, qu'est-ce qu'il doit connaître, en fait, au départ, en gros ?
Bon, je dirais que pour s'initier aux huiles essentielles, il faut d'abord les pratiquer. Se confronter à une réalité. Par exemple, vous avez une angine. Bon, bah, vous prenez une huile essentielle anti-infectieuse. Vous voyez ? Et puis vous voyez un peu ce que ça donne, vous confrontez à elle. Et puis peu à peu, vous allez avoir des affinités. Vous allez vous rendre compte que le tea tree, par exemple, qui est une huile essentielle anti-infectieuse, vous réussit bien. Alors que le thym linalol, qui est une autre huile essentielle anti-infectieuse intéressante, bien, vous réussissez moins bien, vous l'aimez moins bien, vous n'appréciez pas son parfum de la même façon, etc. Donc, vous voyez, vous allez découvrir des affinités, des choses plus ou moins efficaces. Alors après...
Ce qui veut dire qu'en fait, que pour une pathologie donnée, il n'y a pas une huile essentielle donnée. Il peut y avoir plusieurs huiles essentielles données qui arrivent au même résultat.
Exactement. Là, vous avez tout à fait raison. Alors, d'où l'intérêt des familles pour comprendre ce phénomène. Alors, vous avez à peu près 3 000, 3 500 composants différents dans le monde de l'aromathérapie. Bien, vous faites une chromato. Donc, vous analysez cette huile essentielle pour en connaître les composants. Bien. Une huile essentielle, par exemple, de Cupressus impervirens, de cyprès, toujours vert. Vous faites la chromato, vous avez un listing de 50 composants. Vous vous dites, mais...
Oui, il faut battre plus 20 pour comprendre
de
quoi il retourne.
Même plus 30, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Surtout que nous, en médecine, on a appris que vous prenez un remède, vous savez ce que vous faites. Vous prenez deux molécules... Il y a des interactions possibles. Bon, vous savez ce que vous faites, mais enfin bon. Vous en prenez 3, 4, 5. Là, vous sombrez dans l'inconnu, dans l'aventure. Et là, vous en avez 50. Comment que ça marche, le bazar ? Non seulement ça, mais le cyprès, vous allez l'associer à une autre huile essentielle, qui a aussi une quarantaine, cinquantaine de composants. Non, mais là, vous devenez fou. Et pourtant, ça marche. Il y a un principe de réalité, toujours le même, qui vous dit, oui, ça fonctionne. Parce que mon patient, lui, il se trouve amélioré. Et non seulement amélioré, mais il se trouve bien. Alors, comment ça marche ? Alors, il m'est venu une idée, je me suis appuyé un peu sur la réflexion des pharmacos, des pharmacologistes, et je me suis dit que beaucoup de composants avaient des structures chimiques semblables. Par exemple, vous avez parmi les composants des huiles essentielles, vous avez des phénols. Bon, tous les phénols, vous les regroupez, et ils ont tous des propriétés anti-infectieuses majeures. Vous avez, par exemple, des esters. Les esters...
C'est des familles, hein, tout ce que vous donnez là, ce sont des familles.
Oui. C'est pour vous indiquer un petit peu le mode de fonctionnement. Donc, des esters, c'est des hâtes de hyle. Acétate de linalyle. Vous voyez, quand vous avez sur une étiquette un hâte de hyle, c'est un ester. Et tous les esters sont antispasmodiques, décontracturants, apaisants, relaxants. Sachant tout ça, vous regroupez les différents composants en familles dont les membres ont des propriétés semblables.
C'est-à-dire que s'ils sont de la même famille, ils ont forcément des propriétés qui sont les mêmes.
Pas forcément
c'est ça
les mêmes, mais semblables.
Ouais.
Voilà. Parce que qu'est-ce qui crée l'action pharmacologique d'une molécule ? C'est la fonction chimique qui est collée dessus. Ou alors, quand il n'y a pas de fonction chimique, vous savez, il n'y a pas de phénol, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, vous avez des composants qui ne sont composés que de carbone et d'hydrogène, eh bien, c'est le nombre de carbone qui est déterminant et qui va vous donner des propriétés pharmacologiques précises. Vous voyez, par exemple, les monoterpènes, ce sont des composants composés exclusivement de carbone et d'hydrogène et qui contiennent 10 atomes de carbone. Vous avez les sesquiterpènes qui, eux, ont 15 atomes de carbone et qui sont composés exclusivement de carbone et d'hydrogène. Là, ce sont des anti-inflammatoires. Vous voyez, donc, vous avez des structures comme ça, dont on a déterminé les propriétés pharmacologiques, et d'autres composants qui contiennent donc des fonctions particulières, dont on a aussi déterminé les fonctions.
Voilà l'intérêt de regrouper les huiles essentielles en famille, comme vous le faites dans votre livre. Et à noter qu'en fin du livre, vous faites un glossaire avec les pathologies et chaque huile essentielle qui correspond à la pathologie qu'on recherche. Si vous cherchez angine, bronchite, maladie ORL, donc vous retrouverez toutes les huiles essentielles.
Comme ça, ce livre s'adresse aux professionnels ou aux gens qui veulent en savoir plus. par l'intermédiaire de la description de la distillation, après de l'assurance qualité, des différentes familles, des contours de sécurité, des posologies, etc. Et après, vous avez la description des huiles essentielles une par une. Bon, 70, c'est déjà pas mal. Et donc, ça, c'est pour la personne qui est un petit peu plus friande de précision.
C'est pour les personnes qui sont pointues. Mais c'est vrai que, et qui demandent des outils, et parfois, on a besoin d'outils pour comprendre ce qu'on fait. Je vous ai demandé de réfléchir sur quelques pathologies diverses, hein, on verra comment ça fonctionne. Je voudrais savoir si, est-ce qu'il y a des contre-indications absolues dans l'utilisation des huiles essentielles?
Tout à fait. Par exemple, vous prenez une huile essentielle de sarriette, sarriette des montagnes. Sarriette des montagnes, vous avez à peu près 45% de phénol. Vous dites 45% de phénol. Les phénols sont des composants extrêmement déstructurants pour les membranes des pathogènes. Donc si elles déstructurent les membranes des pathogènes, donc des microbes, c'est-à-dire des bactéries, des levures, des virus, quand ils sont enveloppés, bon ben là c'est tout bon. Mais nos propres cellules ont aussi une enveloppe, une membrane. Donc les phénols la déstructurent. Vous voyez ? Donc là il faut faire très attention parce que si vous prenez deux gouttes de sarriette et que vous frottez le dos de la main, vous pouvez avoir une irritation, c'est pas très grave, mais vous pouvez avoir une flictaine, c'est-à-dire une brûlure. Vous voyez ? Bon. Si vous l'avalez comme ça, bon, il y a l'œsophage, le petit tuyau qui est entre la gorge et l'estomac. Pour peu que vous présentiez aussi un reflux gastro-œsophagien, avec déjà une irritation de l'œsophage, une œsophagite, vous prenez un antiacide pour éviter ces brûlures rétrosternales que vous avez. Vous voyez, c'est le signe de l'œsophagite. Prenez des phénols en plus. Là, ça va être sympa. Vous allez savoir vraiment où il se trouve, votre œsophage. De même, si vous souffrez d'un ulcère gastrique, vous prenez des phénols dessus. Et là, ça va bien éroder encore plus. Vous voyez, vous allez faire des complications. Donc là, c'est contre-indiqué en cas donc d'œsophagite, en cas d'ulcère gastrique, en cas même de gastrite, en cas aussi pour le foie, en cas d'insuffisance hépatique, parce que les phénols demandent au foie un travail supplémentaire pour les dégrader. Vous voyez ? Bon, et aussi, comme les phénols sont toniques généraux, donc toniques cérébraux, ils sont contre-indiqués chez les épileptiques. Oui, ça c'est un cas particulier.
Ouais. Les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser d'huile essentielle.
Alors pourquoi ? D'abord, c'est la réglementation que certains s'efforcent d'oublier, mais bon, c'est une réglementation qui est pour une fois, enfin bon bref, entre guillemets, légitime, parce que nous ne disposons pas actuellement d'expériences de toxicologie à terme. C'est-à-dire qu'on a des expériences de toxico aiguës, immédiate, vous voyez, mais à moyen terme ou sur quelques années, on n'en sait rien. Donc, principe de précaution élémentaire, on est là pour rendre service et non pas pour intoxiquer. Donc, dans la mesure où on ne connaît pas les risques que l'on fait prendre au patient, à la patiente, au futur humain, c'est-à-dire au fœtus, bref, dans la mesure où on ignore encore certaines choses, on préfère ne pas faire.
Prudence.
Voilà.
Et les enfants ?
Alors, les enfants avant 30 mois, ça, c'est contre-indiqué aussi.
D'accord. Et donc, les enfants à partir de 30 mois ?
Donc, la femme enceinte, la femme allaitante et l'enfant en dessous de 30 mois. Voilà. Parce qu'on a remarqué, par exemple, que le limonène, qui est le composant majoritaire des essences de citrus, eh bien, le limonène avait une action sur le développement cérébral.
Je rappelle que vous publiez Huiles essentielles en toute confiance, connaître les huiles et les utiliser au quotidien, au courrier du livre.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
On parle de l'utilisation des huiles essentielles ce matin avec le docteur Philippe Goeb. Je rappelle que vous publiez Huiles essentielles en toute confiance, connaître les huiles et les utiliser au quotidien. L'éditeur, c'est le courrier du livre. On est en train de nous parler d'une épidémie de grippe virale qui serait très virulente. Bon, déjà, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir grâce aux huiles essentielles ?
Alors, pour se prémunir de maladies virales, parce que la grippe est due à un virus, le virus de la grippe, qui est un virus à ARN, donc qui mute facilement, d'où chaque année on a un virus différent et on vous propose un vaccin différent, etc. Alors, il est intéressant d'augmenter les capacités de son système immunitaire avec des huiles essentielles. Alors, vous pouvez prendre, entre autres, Ravintsara, l'huile essentielle de Ravintsara, qui veut dire en malgache la feuille bonne à tout. Vous voyez déjà. Et les tradis praticiens malgaches avaient l'habitude d'utiliser les feuilles de cet arbre pour traiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut dire qu'elle est tout à fait avec un large potentiel, si on peut dire. Alors, pour nous, pour la question posée, Ravintsara, c'est notre huile essentielle antivirale de référence et même notre huile antigrippale de référence.
D'accord. Quand vous dites vous pouvez prendre, alors c'est-à-dire en posologie, alors, comment on fait?
Voilà. Alors, vous faites des cures, c'est pas la peine d'en prendre tous les jours de l'hiver pour augmenter son immunité. Vous faites des cures de, allez, 2 gouttes 3 fois par jour, des cures d'une semaine. Alors, 2 gouttes 3 fois par jour sur un petit peu de miel, sur un comprimé neutre, sur ce que vous voulez, enfin, sauf de l'eau.
Le garçon que vous montrez, c'est Tariq, qui explique que c'est un petit peu sa routine quotidienne.
Voilà. Exact. Bon.
Et donc, il a eu une formatrice qui lui a expliqué qu'il fallait qu'il prenne ses 2 gouttes sur son petit comprimé neutre.
Voilà, mais vous pouvez aussi choisir un petit peu de miel dans une cuillère à café. Bon, ce sont des exemples. Et donc, par voie orale, 2 gouttes 3 fois par jour sur une semaine. Ça booste bien votre système immunitaire.
D'accord. Une fois qu'on a la grippe.
Alors, une fois que vous l'avez, eh bien, vous retrouvez cette huile essentielle-là. Alors, si vous avez un bon terrain physique, c'est-à-dire que, admettons, vous comme moi, on ne demande rien, donc on a un terrain qui répond à tout, finalement, qui est résistant.
Qui est tout terrain.
Voilà. Eh bien, vous prenez votre huile essentielle de Ravintsara, mais là, vous en prenez 2 gouttes. 4 fois par jour, par voie orale, et vous en prenez, disons, 5 jours, ça suffit, l'affaire va être faite. Par contre, si vous prenez des anti-inflammatoires, si vous êtes diabétique, si vous avez une pathologie auto-immune, si vous êtes, enfin bref, dans un état de déficience, de fragilité, l'huile essentielle de Ravintsara sera très bien. Mais il faudra prendre en même temps, si on peut dire en même temps, enfin avec, il faudra prendre une huile essentielle, par exemple, de titri, qui est antibactérienne. Parce que Ravintsara, comme je vous l'ai dit, c'est notre...
C'est antiviral.
C'est antiviral.
Ouais.
Mais il faut bien se rappeler que lorsque vous avez une grippe, le virus de la grippe, lui, va se fixer sur vos cellules des fosses nasales, de la gorge, de la trachée, des bronches. C'est sa cible. Et donc, vous allez avoir, premièrement, une inflammation de vos muqueuses. Ensuite, le virus vient et attaque votre épithélium, c'est-à-dire votre première ligne de défense. Et lorsque votre première ligne de défense est altérée, fragilisée, les bactéries viennent. Alors, si vous avez un bon terrain immunitaire, vous comme moi, bon... On s'en tire parce qu'on a nos anticorps, on a nos lymphocytes, nos polynucléaires neutrophiles qui arrivent, nos femmes de ménage qui, allez hop, nous débarrassent de tout ça. Si vous êtes diabétique, vous savez bien que les diabétiques se surinfectent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces mêmes défenses. Donc on leur donnera d'emblée une huile essentielle antibactérienne pour les protéger. Comme ça, ils auront leur antiviral et leur antibactérien.
Et donc c'est titrite.
Titri, par exemple.
Voilà. Donc, en pareil.
Pareil. Alors, quand on prend 2 gouttes, 2 gouttes d'huile essentielle, si vous avez une seule huile essentielle, bah, vous en prenez 2 gouttes. 3 fois, 4 fois par jour. Mais si vous prenez 2 huiles essentielles, eh bien, vous prenez 1 goutte de chaque pour faire 2. Vous voyez, 1 goutte de chaque.
En même temps?
Oui.
D'accord.
Bon, par exemple, vous avez fait votre cuillère à café avec votre miel, vous en mettez une goutte de chaque, vous prenez ça par voie orale, et vous voyez, donc, vous prenez 1 goutte de chaque 4 fois par jour lorsque vous êtes infecté.
Alors, on parle beaucoup de la bronchiolite en ce moment, bon, qui touche bien sûr les enfants. Est-ce qu'il est prudent, est-ce qu'il est sérieux de dire qu'on peut prendre en charge la bronchiolite avec des huiles essentielles ou pas du tout ?
Alors, on peut le faire à condition d'avoir un suivi médical. C'est-à-dire que le risque de la bronchiolite, c'est donc ce VRS, enfin ce virus VRS, qui attaque aussi spécifiquement vos voies respiratoires, trachées, bronches, et qui déclenche une inflammation de la bronche, c'est-à-dire que quand on dit inflammation, il y a de l'édème qui arrive, donc vos bronches, la paroi bronchique augmente de volume. Si bien que si vous avez un tuyau qui a un certain diamètre, vous réduisez le diamètre utile à cause de cet édème. Mmh. Donc forcément, les flux respiratoires, les flux aériens pour inspirer, pour expirer, sont plus difficiles et votre enfant risque de se mettre en insuffisance respiratoire. Donc là, la famille qui est toujours un peu angoissée, qui ne sait pas trop, elle est tellement partie prenante qu'elle ne peut plus facilement garder la tête froide. Donc là, ils font un suivi médical pour dire, attention, là, pas de blague, votre enfant, il est en insuffisance respiratoire, il faut l'hospitaliser dans un milieu, vous voyez, spécialisé pour le suivre. Mais si votre médecin vous dit, non, vous pouvez le garder chez vous, je vous propose de la kiné respiratoire, du clapping, pour l'aider à expectorer et donc à mieux respirer, rien ne vous empêche à ce moment-là de lui prescrire une huile essentielle antivirale pour peu qu'il ait plus de 30 mois. Mmh. Voilà. Et là, en huile essentielle antivirale, alors il y a sur les enfants de 30 mois à 7 ans, vous avez une astuce, vous massez la voûte plantaire. Parce que en massant la voûte plantaire, les huiles essentielles passent la peau et se retrouvent dans le tissu conjonctif plantaire qui est extrêmement riche en structures vasculaires. Si bien que l'huile essentielle se retrouve dans le flux sanguin, dans la circulation générale, comme si vous l'aviez prise par voie orale. Mais là, vous scintez le tube digestif, ce qui est pas mal au point de vue rapide.
Ah, vous ne nous avez pas dit laquelle, quelle que serait bien.
Alors,
pour vous,
rappelez-vous, notre huile essentielle antivirale de référence, c'est Ravinsara.
Alors, si qui vous... est en rupture de stock partout, tellement elle est populaire maintenant.
Bon, alors,
c'est... Non, mais c'est vrai qu'avec la Covid, on a eu beaucoup de Ravinsara qui a été consommée. Hein.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'officiellement, on vous dit que les huiles essentielles ne servent à rien. Et le public, lui, se rend compte que c'est très utile, si bien que les stocks sont épuisés. Alors, vous avez une huile essentielle qui peut remplacer ce Ravinsara, c'est Melaleuca quinquennervia, le Niaouli.
Ah oui.
Parce que jusque dans les années 98-99, enfin 1998-99, notre huile essentielle antivirale, antigrippale de référence, c'était justement cette huile de Niaouli. Et je vous dirais, qui a montré que le Niaouli était une huile essentielle antivirale, antigrippale ?
Qui ?
Dans les années 1927.
Rick Azaray.
Non. L'Institut Pasteur.
Ah. Comme quoi ?
Voilà. Bon, maintenant on oublie tout.
Alors, les angines bactériennes sont souvent soignées avec ce qu'on appelle de l'amoxicilline qui va manquer, nous a-t-on dit. Pénurie d'amoxicilline.
Bah, c'est une pénurie qui passe partout, qu'on utilise beaucoup.
Est-ce qu'il y aurait un équivalent alors, je suis désolé de demander ça, mais finalement, quand on parle de pénurie, est-ce qu'il pourrait y avoir l'équivalent en huile essentielle ?
Bien sûr. C'est même pas un équivalent, c'est le traitement de première intention des angines. Bon, reprenons l'histoire. Vous êtes dans un bureau comme ici, vous avez une clim, admettons, et cette clim, vous voyez, c'est un open space, vous avez des femmes, des hommes. Bon, les femmes sont un peu frileuses, elles mettent la clim un peu plus forte, vous voyez, plus chaude que les hommes. Bon, vous quittez le bureau, vous sortez, ah là, il fait froid, vous prenez froid, et votre muqueuse respiratoire se met en inflammation. Vous voyez ? Bon. Donc, vous commencez à moucher. Et là, vous prenez un anti-inflammatoire. Bon. Mmh. Comme d'autres tout à l'heure, bon, nous l'ont expliqué. Donc, vous prenez un anti-inflammatoire, c'est très bien. Mais il ne faut pas, si vous voulez, utiliser tout de suite un anti-inflammatoire parce que l'inflammation, elle est nécessaire pour vous cicatriser. Bon. Mais le problème, vous voyez, la nuance, c'est que cette inflammation, si elle est utile, elle met votre muqueuse en fragilité. Et là, si vous rencontrez, en même temps que votre inflammation, vous rencontrez un virus, quel qu'il soit, eh bien le virus, lui, pour peu qu'il ait une capacité toxique respiratoire, eh bien il va un petit peu déstructurer votre première ligne de défense, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et là, les bactéries qui sont dans l'environnement vont venir vous attaquer.
Donc, alors, qui est notre ami dans ce cas-là ?
Alors, moi, ce que je propose, d'emblée, quand vous avez un rhume, vous voyez, donc une muqueuse en inflammation, je n'utilise pas tout de suite les huiles essentielles, j'utilise le plasma de Quinton. Alors, le Quinton, c'est de l'eau de mer. Mais de l'eau de mer qui, bon, qui a eu toute une assurance qualité, etc., pour que ce soit bien propre, vous voyez. C'est de l'eau de mer vraiment médicale.
Donc en inhalation, en pulvérisation ?
En pulvérisation.
D'accord. Voilà.
Donc là, vous vous lavez le nez. Et en même temps, cette eau de mer a une composition en sels minéraux qui est à peu près identique à celle du liquide extracellulaire. Donc en même temps que vous vous nettoyez le nez, vous stimulez le métabolisme de cet épithélium qui est malmené. Et donc là, vos cellules vont être régénérées par ce plasma de Quinton, et vous allez refaire du mucus. Vous voyez, vous l'avez enlevé, votre mucus. Vous avez enlevé vos sécrétions, vous avez nettoyé votre nez, et votre muqueuse se retrouve à nu. Il faut qu'elle fasse du mucus. Et dans la demi-heure qui suit, grâce au Quinton, vous retrouvez cette couche de mucus avec les anticorps.
Donc vous le faites combien de fois par jour, à peu près ? Donc,
là, on va pas faire que ça, mais si vous êtes bien pris, vous faites deux fois, trois fois par jour.
D'accord, oui.
Voilà. Ouais. Et puis pendant un jour, deux jours, vous savez, bon, on ne pense pas qu'à ça non plus. Mais enfin, un bon nettoyage comme ça, c'est intéressant, parce qu'avec ce mucus, vous retrouvez vos anticorps. Et n'oubliez pas que le mucus qui est sur nos muqueuses, eh bien lui, il est comme un papier collant. Il colle toutes les poussières, tous les virus, toutes les bactéries, et les anticorps les tuent. Voilà. Si bien que c'est intéressant d'avoir une première ligne de défense intacte.
Et on n'a pas l'équivalent qui pourrait remplacer l'amoxicilline, alors ?
Alors, vous avez l'équivalent en huile essentielle. Alors, Ravinsara au départ, qui est antiviral, mais qui, avec sa concentration à peu près à 60% de 1,8 cinéol, vous trouverez ça dans le bouquin, eh bien, ce 1,8 cinéol, c'est aussi un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc, vous êtes à la fois anti-inflammatoire, vous contrôlez votre inflammation, et en même temps, vous êtes antiviral. Si dans un deuxième temps, au lieu de moucher clair, vous mouchez coloré, verdâtre, enfin je ne veux pas insister, mais vous voyez, vous avez du mal à moucher, eh bien à ce moment-là, vous prenez une huile essentielle, par exemple de titri ou de thym linalol, pour être antibactérien en même temps. Donc vous prenez une goutte de Ravinsara, une goutte de titri, vous voyez, quatre fois par jour, par voie orale, pendant cinq jours, et c'est fini.
Bien, je savais que j'allais vous aimer, docteur Philippe Goeb. C'est pour ça que j'ai insisté auprès de vos auditeurs, hein, votre éditeur, pour que vous veniez. Je rappelle, alors que vous, et les auditeurs vont vous adorer, que vous publiez Huiles essentielles en toute confiance. Connaître les huiles et les utiliser au quotidien, au courrier du livre, ça c'est pour tous les amoureux des huiles essentielles qui veulent comprendre déjà bien les familles et les propriétés des huiles. Ça c'est le premier boulot.
Voilà.
Une fois que vous savez.
Avec le contour de sécurité, comme vous aviez souligné tout à l'heure.
Et les contre-indications et la posologie. Donc vous avez tout ça dans le huile par huile. Voilà. Puis une fois que vous êtes bien au point, vous savez quelle huile fait quoi. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Bah, écoutez, merci à vous de m'avoir invité.
Eh bien, vous revenez quand vous voulez et très belle journée. Santé naturelle sur beurrefm.
Retrouvez AVS dans podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.